Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
T'en balado sur l'application.
Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
Vous écoutez
Martino,
Cube Radio.
Alors, tous les jours, je parle avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Claude, les complotistes, comme je disais tantôt à Félix Séguin, nous faisaient rire au début, mais là, c'est moins drôle.
Oui, c'est moins drôle, puis surtout, Richard, ça prend pas grand-chose, là, avec quelqu'un qu'on passe isolé, qu'on prend pour une espèce de coucou avec un chapeau papier d'aluminium dans son sol. Ça prend pas grand-chose pour qu'il fasse des gros dégâts. Je me victimise pas par rapport à ça, là, j'ai rien subi, mais je me trouvais au Métropolis le soir où il y a un monsieur, là, dérangé.
C'est vrai.
Qui est embarqué dans son truck là avec ses fusils puis qui est descendu à Montréal là, à partir des Hautes-Laurentides, tu sais. Puis on en parle encore aujourd'hui, puis je connais des gens qui vivent encore avec le trauma de ça là, tu sais. Ça prend pas grand-chose. Ça prend vraiment pas grand-chose pour que quelqu'un qui il y a des gens organisés, on nous dit ça que la police a surveillé là, ces groupes-là là, qui comploteraient là pour poser gestes, mais ça prend juste un illuminé, quelqu'un tout seul là, pour poser des gestes qui auraient des grandes conséquences.
Ben écoute, est-ce que c'est la Grande Mosquée de Québec?
Ben oui.
C'est la même affaire. C'est la même affaire. Ça prend pas grand-chose. Ça en prend un pour qu'il devienne complètement sauté. Et là, ce que tu dis, toi, c'est que bon, ces complotistes-là, j'espère que on vient pas d'allumer comme quoi ils sont dangereux. Tu t'espères que ça fait un bout de temps qu'ils sont sous surveillance policière.
Mais tu sais, oui, parce que bon, depuis le début de la pandémie, le phénomène là de des théories du complot, des gens qui pensent que tout ça n'est qu'une vaste fumisterie, une conspiration mondiale, là, cette pandémie-là, là, pour nous asservir. Au début, on s'en est amusé, comme tu disais. Au début, on voyait ça arriver, puis on en cherchait quasiment dans nos amis Facebook là, pour voir si on pouvait les voir se manifester, tout ça. Mais moi, très tôt, j'ai déjà travaillé dans un gouvernement, j'en parlais à du monde autour de moi, j'ai dit, ouf, j'espère que qu'il y a un certain monitorage qui se fait, là, puis que les forces policières sont au courant, parce que ça peut devenir des menaces potentielles. Puis tu sais, au début, ben c'est ça, là, c'est des gens qui font leurs propres recherches sur Internet, là, puis sur YouTube. Mais on l'a vu ce qui s'est passé au Capitole la semaine dernière, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, ça fait boule de neige, puis tu peux plus remettre le génie dans la bouteille, là, tu sais, ces gens-là, ils se sont radicalisés, ils se sont intoxiqués, puis là, ben, ça devient vraiment dur de faire un retour en arrière.
Puis avant, ils étaient très marginalisés, mais depuis qu'il y a un président qui se dit lui-même quasiment complotiste, il vient de leur donner un certain crédit, là.
Ouais, ben c'est ça. Pour eux, c'était comme une consécration. Hein,
ben oui.
Tu sais, ils étaient du bord du pouvoir. Quand tu penses que tu t'es inscrit dans la marge, puis que t'es un petit peu discrédité, puis que là, tout d'un coup, t'as quelqu'un qui est au pouvoir, qui occupe le fauteuil le plus prestigieux au monde, celui de président des États-Unis, qui reprend tes thèses, puis qui, tu sais, comme les Proud Boys, là, qui se sont fait dire stand down and stand by, là,
oui.
Lors du débat présidentiel, ben, tu sais, pour toi, c'est comme la consécration, là, tu te sens, là, tout d'un coup, investi, là, par ça te donne une légitimité accrue, disons.
Tout à fait. Mais comment toi tu vois ça, cette popularité des thèses complotistes? Comment t'expliques ça?
Ben tu sais, ça, moi je pense que ça donne un sentiment de pouvoir. Tu sais, ce qu'on vit présentement, moi c'est comme individu, là, comme Claudio, mon Claudio intérieur, là, que j'ai ressenti souvent, c'est qu'on se sent vraiment impuissant par rapport à ce qui arrive. Hein. Puis c'est humiliant, là. Il y a une petite bébite microscopique qui est apparue, là, puis d'un coup, on est tout enfermé chez nous. Tu sais, c'est comme ça se passe, puis on n'a pas de contrôle sur ce qui arrive. Là, quand t'as identifié une théorie du complot, quand t'as identifié des gens qui sont responsables de ce qu'on vit, ah, là, tout d'un coup, on aurait une emprise là-dessus, on pourrait le changer, parce qu'il suffirait là de les soumettre, là, de les mettre en prison, ces gens-là là, qui nous ont fait subir ça, là, puis tout en deviendrait comme avant. T'sais, ça te donne l'impression d'avoir une prise sur les événements qui sont en train de se passer. Donc, là, ben en plus, là, tu t'es informé là-dessus, t'es allé lire là, sur le dark web là, ou n'importe quel endroit des théories un petit peu farfelues, mais là, toi, là, tu viens de rentrer dans la gang de ceux qui savent.
Ben oui.
Là, bon, c'est des endormis, mais toi, t'es un allumé, tu sais, ça flatte ton ego, là, tout d'un coup, là, de faire partie de ceux qui ont compris la gamique, là, tu sais. Là, tu m'as pensé que t'es au-dessus de tout ça. Moi, je pense que ça vient de ça. C'est que les théories du complot nous apporte une satisfaction de nous trouver intelligents, puis ça aide à donner un sens, à trouver des responsables à des événements qui arrivent qui n'ont pas de logique sinon.
C'est ça, puis je dis à Félix Séguin, tu sais, ça aide peut-être à donner aux gens qui n'ont pas un coffre à outils très très rempli, là, tu sais, qui ont peut-être un crayon à mine dans leur coffre à outils puis une vis, c'est à peu près tout, là, ça leur donne l'impression d'être des prix Nobel, d'être super intelligent, d'être super éduqué, informé, parce que ces gens-là font des liens entre différentes données, toutes sortes de données, des chiffres, puis tout ça, mais là, ils font des liens entre ça, puis là, ils se pensent intelligents.
Oui, puis, tu sais, c'est que c'est épeurant, puis ça demande beaucoup d'humilité dans la vie pour accepter qu'on vit quelque chose qui est dû au hasard, ou qui est fortuit. T'sais, genre, on vit un drame planétaire présentement, puis ce serait la nature qui aurait causé ça, ou quelque chose comme ça, puis on n'a pas de contrôle. Ça fait peur, penser à ça, Richard. T'sais. Imagine, là, tu te rappelles le gros volcan, le fou là, en Islande, là, imprononçable, là, qui est en train d'éruption.
Oui.
Pendant des mois, il y a eu de la fumée sur l'Europe. Dans l'histoire là, géologique de la planète, là, c'est arrivé à plusieurs reprises, là, des événements comme ceux-là qui ont duré des années. Mettons là, que le volcan il rentre en éruption à nouveau là, pour 10-15 ans, là, puis ça scrape l'économie de l'Europe. Mais il va y avoir des gens pour penser là, que c'est Dr. No là, de James Bond là, qui est caché sous la Terre puis qui a fait exploser ça. Puis il va y avoir des gens pour chercher un responsable à un événement qui est complètement fortuit, qui est complètement inattendu. Donc là, on vit ce qu'on vit présentement. Il n'y a pas de responsable. Puis c'est effrayant de savoir que ça c'est arrivé puis que ça peut arriver encore. Alors, il y a des gens qui essaient de rationaliser ça puis de nous sortir de cette situation-là, mais qui se trouvent à nous mettre en danger.
Mais oui.
Parce qu'ils nous empêchent d'avoir la réponse collectivement la réponse appropriée à ce qui se passe.
Ben oui, puis leurs actions, c'est ça qu'ils comprennent pas, leurs actions vont participer à ce que la crise dure plus longtemps.
Oui, c'est ça. Parce que ça fait circuler le virus davantage, parce que ben là c'est ça, on voit ce matin, c'est la presse, le journal nous parle de ponts qui pourraient être ciblés, d'infrastructures publiques là, qui sont surveillées par le gouvernement. La presse nous parle de sites de vaccination là, qui pourraient être visités par des complotistes. Ça met du sort dans l'engrenage de notre réponse collective à un phénomène qu'on contrôle pas.
Mais en même temps, ça fait tellement partie de l'époque. On dirait que le centre est en train de s'effondrer, puis les extrêmes montent. Hein, que ce soit extrême gauche avec toute la gang de woke, ou que ce soit l'extrême droite avec les complotistes et tout ça. On dirait qu'eux autres montent, puis le centre, les gens qui sont extrêmes centristes, comme je suis en train de le devenir vraiment, eux autres sont en minorité. Écoute, il y a une affaire, je m'explique pas. Le 1,3 million qu'on dit de tests de dépistage rapide qui depuis des mois dorment dans les entrepôts, les préposés aux bénéficiaires, les professeurs, écoute, les gens du milieu de la santé disent on en a besoin de ces tests-là. Là, on va les utiliser, mais de façon prudente. Qu'est-ce qu'on attend pour utiliser ces tests-là?
C'est parce que Québec n'arrive pas à faire fitter les tests rapides dans sa stratégie. À les faire marcher dans la façon qu'on a décidé de fonctionner. Nous, on dépiste at large. Voyons, j'utilise beaucoup d'anglicisme aujourd'hui, je m'excuse aux auditeurs, je vais faire attention. On dépiste de façon un peu passive. Là, on vise le plus grand échantillonnage de population possible, puis c'est la stratégie qu'on a adoptée. Alors que les tests rapides, ils sont pratiques quand on fait des dépistages ciblés là, dans des milieux là, très, très précis. Par exemple, dans une école, par exemple, dans un hôpital, parce que ça donne des résultats rapides, mais qui sont moins précis, moins raffinés que les fameux tests PCR. Là.
Oui.
Donc, ça fonctionnerait pas pour un dépistage de masse, mais ça fonctionne pour un dépistage ciblé. Mais ce que ça montre, là, Québec n'utilise pas ça parce qu'il n'a aucune stratégie de dépistage ciblé. On a juste une stratégie de dépistage passive de masse. Et pourtant, les juridictions qui s'en sont super bien sorties là, de la crise, là, notamment en Asie, Japon, Corée, Taïwan, Hong Kong, ont une stratégie davantage, qui repose davantage sur le dépistage ciblé que sur le dépistage massif. Ce que ça montre, en fait, c'est que Québec adapte pas sa stratégie au contexte, en se comparant aux pays qui ont bien réussi par rapport à la pandémie.
Parce que là, on dit les tests de dépistage rapide, ils sont pas fiables à 100%, ils sont fiables à 80%. Des fois, il y a des faux négatifs, mais je reviens à ce que j'ai dit. Il vaut mieux une alarme de feu qui est efficace à 80% que pas d'alarme de feu pantoute.
Ben, c'est que ça va te permettre de dépister des asymptomatiques que tu n'aurais jamais pogné de toute façon. puis qui serait pas allé, il serait pas rendu dans une clinique là pour faire la file avec le retour là pour se faire dépister. C'est avec les tests rapides, tu sais, il dit ça va créer des faux négatifs. Ouais, mais ça va aussi permettre d'identifier plein de monde qui serait jamais allé se faire dépister autrement. Donc moi je pense que le gain est plus, c'est plus, on est plus dans le positif que dans le négatif avec les tests rapides.
Ben écoute, ça oui, il y a des faux négatifs, mais il y a pas de faux positifs. Donc si on te passe le test rapide puis t'es testé positif, après ça tu vas aller passer le vrai test là, qui est beaucoup plus fiable. Là. Mais au moins, tu sais, on va te retirer des écoles, on va te retirer du CHSLD, on va te retirer de ton milieu de travail.
Oui, puis en fait, il n'y a pas de faux positifs, à part ceux que, puis on souhaite qu'ils fassent ça. Donc, on va pouvoir dire, oh là là, dans cette classe-là, dans cette école-là, on a identifié une quinzaine de cas. Alors, toi, tu es en contact avec eux, isole-toi. T'as pas de symptômes, t'as pas de raison de le passer, c'est correct, isole-toi. Tu sais, c'est le test, la façon que... Il faut pas utiliser le test rapide pour diagnostiquer la maladie.
Non.
Utilise le test rapide pour identifier la présence de la maladie dans un milieu. Puis ça, Québec a pas mis ça partout dans sa stratégie.
Ben, tu sais, on a bretté pour le masque, le port du masque. On a bretté pour la transmission dans l'air. Puis on brette pour les tests de dépistage rapide. Là, il y a des gens qui disent, ben une fois que la pandémie est terminée, il va falloir réfléchir à ça. Comment ça se fait que ça prend tant de temps? Comme Véronique Yvon a dit, on perd notre temps avec des évidences, des choses qui sont évidentes.
Oui, puis tu sais, il faut être agile dans une crise, il faut tenir compte de l'évolution des connaissances. Puis tu sais, Richard, tout le monde aime ça, le collecter là, tous les exemples de mauvaise foi qu'on entend là, ces temps-ci, là, tu sais, de gens qui cherchent des exceptions, puis cherchent les incohérences dans le discours gouvernemental. J'en ai un peu soupé de d'entendre des gens dire, ouais, mais là, Arruda, au mois d'avril, il nous disait que le masque donnait rien, puis il nous dit de le porter. Non, regarde, OK, il a changé d'idée, c'est tout, OK? Tu sais, je veux dire, assume-le. Ben, sur plein d'autres aspects comme ça, il faut l'adapter, notre réponse à la pandémie, parce que on en sait plus sur le virus aujourd'hui qu'on le savait au printemps dernier. OK, les tests rapides, ça peut être une stratégie à l'automne, correct, là, je veux dire, il y a personne qui va faire de procès à personne. Maintenant, est-ce qu'on peut les intégrer? Est-ce qu'on peut trouver une façon de faire marcher ça dans notre stratégie? Il faut s'adapter, il faut être plus agile que ce qu'on est présentement.
Tout à fait, plus agile, tout à fait. Vaut mieux en faire trop que pas assez, comme je le dis toujours.
Une mauvaise décision est meilleure qu'une absence de décision.
Exactement. Écoute, un bon week-end de tempête. On se reparle lundi, Claude.
Et bon, merci. On va péter un peu, puis on va avoir la tête fraîche pour se parler lundi.
OK, salut.